Le journal Margot Delpierre, bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Je connais les dossiers. Olivier Véran se veut rassurant. Ce matin, il est nommé ministre de la Santé à la place d'Agnès Buzyn, qui elle-même prend la relève de Benjamin Griveaux au municipal. La réforme des retraites arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée.
Nous reparlerons d'Agnès Buzyn et de la nationalisation du scrutin parisien dans le billet politique de Stéphane Robert dans un quart d'heure.
La population s'inquiète en Tunisie alors que doit être réactivée l'opération navale Sophia en Méditerranée. Elle pourrait être utilisée pour contrôler l'embargo sur les armes en Libye. Sa priorité ne serait plus la lutte contre les passeurs.
Ils réclament des augmentations de salaire et l'arrêt de l'importation du charbon de l'étranger. Les mineurs polonais font grève aujourd'hui. Explication de notre correspondant.
Nous prendrons des nouvelles du Diamond Princess au Japon. C'est le principal foyer d'infection du coronavirus hors de Chine. Des passagers du bateau de croisière commencent à être évacués.
Cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler, il faut les régler avec calme, avec détermination. Et je suis venue chercher la confiance des Parisiennes et des Parisiens pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de ceux qui y vivent.
Agnès Buzyn, hier soir, après avoir annoncé sa candidature à la mairie de Paris, celle qui est encore pour quelques heures ministre des Solidarités et de la Santé, succède à Benjamin Griveaux comme tête de liste La République en marche après la diffusion de vidéos à caractère sexuel. Un chamboule-tout politique à 30 jours des élections. Elle passera le pouvoir ce matin à Olivier Véran, député de l'Isère et neurologue. Il n'y aura pas de période de chauffe, je connais les dossiers, assure-t-il. Et ils sont nombreux, la crise dans les hôpitaux publics, l'épidémie de coronavirus et la réforme des retraites. Le projet de loi arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale dans sa version initiale. Après les débats en commission, les travaux recommencent en séance publique. 41 000 amendements ont été déposés par l'opposition, Pierre Neveu.
Le scénario est écrit d'avance. Comme en commission spéciale, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a prévu une mobilisation générale pour défendre point par point chaque amendement.
Pour nous, la bataille dans l'hémicycle, elle a pour objectif essentiel d'intéresser toujours plus de monde au contenu de cette loi pour que les gens comprennent de mieux en mieux de quoi il retourne et puis pour enfoncer la ligne de défense macroniste qui pour l'instant est extrêmement pauvre.
Les insoumis qui, dès le début de la séance, devraient déposer une motion référendaire, une motion de censure devrait suivre. Mais là où les oppositions se rejoignent, c'est autour de la question du financement de la réforme et du recours aux ordonnances. Christian Jacob, le président des Républicains.
On dit aux députés, votez le texte, votez cette réforme et puis surtout, vous la votez vite parce qu'on a autre chose à faire que de perdre du temps avec vous. Et puis le financement, on s'en occupera plus tard parce que c'est pas de votre niveau, on verra ça dans 2 mois. C'est irresponsable.
Des interrogations sur l'équilibre financier de la réforme également portées par quelques députés de la majorité. Nous ferons une réforme responsable et financée, assure le Premier ministre Édouard Philippe, qui redoute une nouvelle phase d'obstruction parlementaire.
Que l'on critique le projet du gouvernement et de la majorité, c'est très sain. Et que l'on s'y oppose dans la rue, c'est légal et c'est même normal. Mais je crois que priver la représentation nationale d'un débat de fond sur un texte qui va engager le pays sur plusieurs dizaines d'années, c'est moins facilement acceptable pour le gouvernement, bien entendu, pour les députés de la majorité.
Reste à savoir comment le président de l'Assemblée nationale conduira les débats pour faire adopter le texte comme prévu, début mars, avant les municipales, et surtout éviter au gouvernement de recourir au 49-3.
Et dans l'enquête sur la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, les gardes à vue de l'artiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été prolongées hier soir. Cette dernière aurait été l'une des destinataires des images. C'est une information de la cellule investigation de Radio France. Un psychiatre avait alerté dès 2006 sur la dangerosité de Joël Le Squarnec. Ce médecin est soupçonné d'avoir fait 350 victimes, pour la plupart des enfants, agressé sexuellement dans les hôpitaux où il travaillait et sur une période de 30 ans. Le psychiatre avait alerté les autorités et confronté son collègue. Alors que le président Emmanuel Macron commence à dévoiler sa stratégie de lutte contre le séparatisme islamiste, un colloque inédit s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le premier des imams d'Europe pour la lutte contre la radicalisation. Une cinquantaine sont invités pour débattre des moyens de favoriser un islam apaisé en Occident. L'imam de Drancy est à la tête de ce projet. Le programme de ces 3 jours avec Antoine Maret.
Trois journées de conférences et de tables rondes, deux journées consacrées à l'idéologie djihadiste et aux mécanismes de recrutement, une journée pour lancer des pistes pour un islam moderne et intégré à la société occidentale. À l'issue de ce colloque, un livre blanc sera remis aux responsables politiques européens. C'est Hassen Chelgoumi qui est à l'origine de cette initiative. L'imam de Drancy se veut le représentant d'un islam modéré.
Moi j'appelle, c'est un message aussi aux Européens, de dire il faut avoir un islam européen. Il faut avoir un islam européen indépendant de l'ingérence étrangère, indépendant de l'ingérence turque, de l'ingérence qatari, ou de l'ingérence salafisme ou d'autres, ou de l'ingérence de l'islam politique. Si on a la réflexion de trouver la solution de créer un islam européen qui pense à l'avenir, qui pense aussi au statut des imams, aux formations des imams, au discours religieux en Europe.
Et il n'était pas possible d'organiser cela avec le Conseil français du culte musulman ?
On a envoyé l'invitation, ils peuvent partager avec nous. Vous savez, le CFCM il a un rôle important, mais aussi il y a tellement de vide. Hein. Il faut chacun essayer de s'engager et remplacer le vide qu'on a besoin.
De leur côté, les responsables du CFCM confirment qu'ils ne participeront pas à ce colloque, mais ils affirment ne pas avoir reçu d'invitation.
Antoine Marette.
8h06, la suite du journal de Margot Delpierre. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui à Bruxelles.
Ils devraient réactiver l'opération Sophia en Méditerranée. Avec une différence, cette fois la priorité sera de contrôler l'embargo sur les armes à destination de la Libye, plutôt que de lutter contre les passeurs et sauver les migrants. Les bateaux se tiendront plus au large, loin des routes migratoires. Une idée qui scandalise la société civile. Le reportage de notre correspondante en Tunisie, Maureen Mercier.
Les acteurs humanitaires ici en sont persuadés. La relance de l'opération Sophia fera le jeu des passeurs. Les trafiquants se serviront du retour des bateaux européens en Méditerranée pour faire croire aux migrants que ceux-ci pourront les sauver. Mongis Slim, responsable du Croissant Rouge tunisien.
C'est vraiment dramatique. La première conséquence, c'est donner des idées aux trafiquants qui vont envoyer le maximum de bateaux vers l'Europe. Les conséquences seront dramatiques avec l'augmentation du nombre de naufragés et de cadavres.
Dans le centre d'accueil qu'il gère, Mongis Slim voit combien une simple annonce peut provoquer des départs en mer. La preuve, avec cette migrante, depuis que l'Europe a commencé à simplement émettre l'idée de relancer ses bateaux en mer, c'était en janvier, elle a vu le centre se vider, ses amis repartir en Libye pour ensuite tenter la traversée.
Les passeurs nous ont donné l'information. Ils nous ont dit que l'Europe allait envoyer des bateaux de sauvetage en mer. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais en se basant sur cette info, beaucoup de gens, dont des amis très proches, sont repartis en Libye. Si ces bateaux viennent pour d'autres raisons que le sauvetage, croyez-moi, beaucoup, beaucoup de gens vont mourir cette année.
Vu de Tunisie, que l'opération Sophia puisse reprendre uniquement pour le contrôle de l'embargo sur les armes en Libye signifie aussi que l'Europe n'envisage définitivement plus de respecter le droit international, de sauver des vies et de travailler à une vraie solution sur la question migratoire. Pour la société civile, c'est un coup d'assommoir.
De réunion en réunion à Bruxelles, place jeudi à un sommet extraordinaire avec au menu le budget pluriannuel de l'Union européenne. Vendredi, le président du Conseil, Charles Michel, a présenté son projet de compromis. Chaque pays membre espère que ses priorités seront bien prises en compte. Mais la négociation s'annonce tendue à cause du départ du Royaume-Uni. Deuxième contributeur net, Angélique Boin.
Tous les 7 ans, c'est le même bazar, soupire un fonctionnaire européen. Mais là, c'est pire. L'équation est en effet inédite. Il faut combler les 75 milliards de trous britanniques tout en finançant les nouvelles priorités, innovation et numérique, sécurité ou encore migration. L'ambition écologique, elle, sera essentiellement transversale avec, par exemple, la politique agricole commune dont 25% du financement devrait être fléché vers des projets vertueux. Autre nouveauté, ce budget sera le premier qui conditionne certaines aides au respect de l'état de droit. Mais les 27 avancent en ordre dispersé, avec deux clans très éloignés. Il y a les pays prêts à dépenser plus pour conserver le même niveau d'aide aux régions défavorisées et à la politique agricole commune. La France, première bénéficiaire de la PAC et ambitieuse en matière de défense, en fait partie. Pas question de pénaliser les agriculteurs au moment même où on leur demande de s'adapter au changement climatique, dit-on à l'Élysée. De l'autre, les pays que l'on a baptisés les pays frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark, qui payent traditionnellement plus qu'ils ne reçoivent de l'Union. l'Union et qui accepte de financer les nouvelles priorités, mais en rognant sur les programmes traditionnels. Il va falloir trouver un point d'équilibre. Les chefs d'État et de gouvernement ont finalement réservé 2 nuits plutôt qu'une à Bruxelles et libéré leurs agendas, confie une source européenne.
Angélique Boin à Bruxelles pour France Culture. Des milliers de mineurs polonais devraient faire grève aujourd'hui. Les gueules noires de l'entreprise publique PGG réclament des hausses de salaire de 12% pour s'aligner sur les rémunérations des autres acteurs du secteur minier. Ils demandent aussi d'arrêter d'importer du charbon pour soutenir l'extraction locale. Les mines du principal acteur du secteur sont à l'arrêt pendant 2 heures ce matin. Secteur en grande difficulté, Thomas Giraudeau.
Le groupe PGG, géant public des mines, ne peut pas augmenter les salaires. Il est en grande difficulté, le prix de vente de la houille est en baisse et les familles polonaises qui se chauffent encore au charbon préfèrent le minerai russe, beaucoup moins cher et de meilleure qualité. Bartłomiej Majderski est journaliste spécialiste de l'énergie.
La quantité de charbon extraite en Pologne est en constante baisse depuis 40 ans à cause de son coût. Nous extrayons de la houille depuis plus de 100 ans, donc il n'y a plus de charbon proche de la surface. Il faut creuser de plus en plus profondément pour le trouver, et cela coûte plus cher.
Le président Andrzej Duda dit pourtant que son pays peut encore exploiter le charbon pendant 200 ans, une annonce pour séduire les 80 000 mineurs du pays. Mais en Silésie, au cœur du bassin minier polonais, le maire de la ville d'Imielin, ancien mineur, Jan Fiedacz, est plus réaliste.
Ce n'est plus l'âge d'or des mines. Il y a 30 ou 40 ans, un millier de mineurs habitaient Imielin. Aujourd'hui, ils sont 5 fois moins nombreux. Il faut passer à des sources d'énergie renouvelables. Surtout que l'Union européenne dit non au charbon.
Le gouvernement vient d'annoncer que les centrales électriques vont arrêter d'acheter du charbon venu de l'étranger. Mais le minerai polonais étant plus cher, les factures énergétiques des habitants vont mécaniquement augmenter.
22 civils ont été tués vendredi au Cameroun, une majorité d'enfants et plusieurs femmes. L'ONU l'a annoncé hier, l'attaque s'est produite dans le nord-ouest du pays. Des hommes armés ont fait irruption dans le village d'une province peuplée par la minorité anglophone. Le coronavirus a fait plus de 1700 morts en Chine. Hors du pays, le principal foyer d'infection, c'est le paquebot de croisière Diamond Princess, mis en quarantaine il y a bientôt 2 semaines dans le port de Yokohama au Japon. Près de 400 personnes ont déjà été infectées à bord. Plusieurs pays organisent maintenant l'évacuation de leurs ressortissants. Yann Rousseau.
Après plusieurs jours de tergiversation, les États-Unis ont finalement décidé d'agir samedi. L'ambassade américaine a d'abord fait passer un message à ses ressortissants coincés à bord du navire, puis Washington a envoyé au cours du week-end des équipes médicales à Yokohama, ainsi que 2 gros avions militaires équipés à l'intérieur de véritables chambres d'isolement. Et la nuit dernière, les passagers américains du Diamond Princess ont été testés par des équipes habillées dans des combinaisons médicales de protection, et ils ont ensuite été évacués par bus vers l'aéroport d'Haneda. Les 2 Boeing de l'armée américaine ont décollé à l'aube ce matin avec près de 400 personnes à bord. Alors tous vont devoir faire une autre quarantaine, mais aux États-Unis cette fois. Ils vont être répartis entre 2 bases militaires situées au Texas et en Californie. Ce volte-face des États-Unis ne fait pas que des heureux. Une 30aine d'Américains qui avaient, eux, suivi très strictement les consignes de quarantaine sur le navire ont refusé de se faire évacuer. Ils espèrent être autorisés à sortir du bateau dès ce mercredi. Ça sera la fin de la quarantaine officielle. Ils seront alors libres de leur mouvement, mais n'auront pas le droit de retourner aux États-Unis avant le 4 mars. Washington veut absolument imposer un délai de 14 jours entre leur sortie du bateau et leur arrivée en Amérique. Et surtout, ils devront se présenter à la frontière avec un certificat montrant qu'ils ne sont pas porteurs du coronavirus. À la suite des États-Unis, plusieurs autres nations ont promis d'exfiltrer leurs ressortissants. On attend donc dans les prochaines heures des avions en provenance du Canada, de Corée du Sud ou encore de Taïwan.
Et parmi les Américains évacués, 14 sont positifs en raison du coronavirus. J'ajoute que le Japon annule l'accueil du public pour l'anniversaire de l'empereur. Donald Trump demande à la Russie de ne plus soutenir, je cite, les atrocités du régime syrien de Bachar el-Assad. La région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, subit de nombreux assauts. La situation humanitaire est catastrophique. Le président américain s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il n'y a jamais eu autant d'alertes inondations en Angleterre. Près de 600 du sud de l'Écosse à la Cornouaille à cause de la tempête Dennis qui a balayé hier le Royaume-Uni. Un homme est mort. Des centaines d'avions au départ comme à l'arrivée n'ont pas pu décoller. Le vent a soufflé très fort en France également. Encore 20 000 foyers sont privés d'électricité ce matin en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie. Quelques dégâts aussi sur les voies. Un arbre tombé sur les rails a perturbé le trajet d'un TGV Nantes. Nantes-Paris avec 750 voyageurs à bord. Ils sont arrivés à la gare Montparnasse au bout de 15 heures. Le temps aujourd'hui sera pluvieux du nord de l'Aquitaine au Grand Est. Attention aux rafales, 80 km/h près de la Manche. Comptez ce matin 8 degrés à Lille, 10 à Paris et Bordeaux, 11 à Strasbourg, 12 à Lyon et 14 degrés à Marseille, Hervé.